RMC.
GG, 7 et match.
On a remplacé la Russie en tant que deuxième exportateur sur les 5 dernières années. On est juste derrière les États-Unis et derrière nous, on a quand même la Russie et la Chine. On fait mieux que les exportations tricolores. En fait, entre 2019 et 2023, c'est plus 47%. Grâce notamment aux Rafales que l'on vend à l'Inde, au Qatar, à l'Égypte, mais on vend aussi des missiles, des frégates, des sous-marins, de l'artillerie, des hélicoptères, des radars, des satellites d'observation. Voilà, ça c'est l'armement que l'on vend à travers le monde. Alors est-ce que, deuxième exportateur d'armes au monde, est-ce qu'on peut être fier de la France? Oui ou non? Oui pour Olivier Jean-Loup, non pour Barbara Etienne. Tiens Jean-Loup, je vais te donner le oui, les 60 secondes, c'est parti.
Alors oui, moi je pense qu'on peut être fier. Déjà, ça crée des emplois. Ensuite, on déplore à juste titre, et moi le premier, la désindustrialisation de la France. Bah, c'est une industrie qui nous reste. C'est l'un de nos derniers beaux fleurons. Et enfin, on sait bien que nous-mêmes, pour s'armer, il faut justement faire de la recherche dans ce domaine, fabriquer des armes, en vendre, de façon à être un peu moins dépendant des autres pays, notamment des Américains. En fait, tu ne peux pas armer toi-même, un pays ne peut pas armer soit lui-même son propre pays, sa propre armée, s'il n'a pas une industrie de défense puissante et exportatrice. Donc il faut bien vendre pour pouvoir aussi équiper notre propre armée. Donc moi j'en suis très fier. Simplement ce qui m'inquiète, j'ai peur que les Américains, qui eux sont le premier exportateur, cherchent à liquider, à saboter l'industrie de défense française dans laquelle ils vont petit rival.
Alors, réponse, Étienne, tu veux répondre?
Écoute, moi je suis d'accord sur le plan industriel, c'est tout à fait bien qu'on gagne du fric en vendant des armes. Il y a une première question morale, c'est-à-dire que les armes, ça sert à tuer des gens. Donc, devenir la deuxième industrie du monde pour tuer des innocents, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les militaires qui meurent, c'est les civils partout. Donc, devenir la deuxième puissance du monde pour tuer des civils, bah, y a quand même une petite question morale par rapport à ce que représente la France sur le plan symbolique mondial. Et puis ensuite, il faut savoir qu'on vend peut-être des armes en ces moments de refonte des stratégies géopolitiques internationales. On veut peut-être des armes à des gens qui vont nous les foutre sur la gueule dans quelques années, ce qui automatiquement est un peu compliqué. On l'a déjà vu, des gens se défendre avec des armes qui avaient été vendues par ceux qu'ils attaquent. Donc, je pense qu'il faut... Il y a, sur le plan purement fric, oui, c'est bien, recherche aussi peut-être, mais sur moral. Le plan moral, c'est plus emmerdant quand même.
Barbara?
En effet, la question qui est posée, c'est: êtes-vous fier que la France soit le deuxième exportateur d'armes? Pas la question de la production. Dans un monde aussi insécure que celui dans lequel nous vivons, où les dangers, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont tels qu'un jour, il n'est pas exclu que même en France, nous devions intervenir militairement avec l'armée pour remettre au pas un certain nombre de gens. Donc, bien sûr qu'il faut que notre armée française soit forte, et les armes, elle ne va pas se les fabriquer toute seule. Donc, il faut bien une industrie de défense, il faut bien une industrie militaire. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal avec les 60% de ceux à qui nous les vendons. Donc, nos premiers interlocuteurs, Émirats Arabes Unis, 21 milliards, l'Égypte, 12 milliards, le Qatar, 11 milliards, l'Inde, 11 milliards, l'Arabie Saoudite, 9,5 milliards. J'ai un léger problème avec un certain nombre de ces pays. L'Inde fait partie des BRICS. Le Qatar, ben, c'est les copains du Hamas et de toute la clique islamiste qui nous pourrit la vie partout dans le monde. Et je dis bien partout dans le monde, pas qu'en Israël, partout dans le monde. Les Égyptiens, c'est un État qui est complètement en faillite. Et même militairement, c'est un État qui est très, très indécis, très instable. Et il n'est pas dit demain que quand le maréchal Sissi va tomber, va savoir ce qui va nous revenir. Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, on le sait, ils s'arment pour éventuellement se confronter à l'Iran. Donc là, à la limite, je pourrais accepter, parce qu'effectivement, je pense qu'un des grands problèmes après la Russie du monde, c'est l'Iran. Mais ça, on n'a jamais voulu s'occuper de ce problème-là. Celui-là aussi, quand il va nous péter à la figure, ça va être beau. Donc moi, c'est ça qui me gêne, c'est à qui on vend des armes? Quel est le plan géostratégique de nos acheteurs d'armes? Et ce n'est pas seulement qu'ils vont nous les remettre à nous sur la tête, mais ils peuvent les remettre sur la tête d'autres gens qui sont a priori nos alliés d'un point de vue moral, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue politique. Donc encore une fois, moi je suis fière que la France soit un grand producteur d'armes pour elle-même et pour des gens qui défendent les valeurs qui sont les valeurs humaines. En revanche, je ne suis pas fière qu'on les vende à des pays qui sont des dictatures.
Tout ça est un héritage du général de Gaulle, une fois de plus, puisque c'est lui qui avait dit que notre indépendance, l'indépendance de la France, devait reposer justement sur une armée française autosuffisante qui devait donc vendre ses armes pour pouvoir elle-même financer sa défense.
Tout, hein.
Alors, on n'y est pas vraiment.
Ah bah non, vu qu'on n'a plus de stock.
Néanmoins, justement, et on voit bien quand même que c'est un enjeu, parce que si les Américains se désengagent, que ce soit d'ailleurs Trump ou Biden réélu, on voit bien que les Américains, l'Américain moyen, il a moins envie d'être le gendarme du monde. Donc en fait, il va falloir que les Européens prennent leur destin en main. Et donc il va falloir que nos budgets, et malheureusement le budget de la défense française avait été un peu sabordé par les présidents précédents, Hollande ou Sarkozy, il faut que le budget, même Chirac, il faut que le budget remette de l'argent.
C'est voté.
Il faut que les Européens le fassent, ce que font les Allemands, et qu'on ait une vraie armée européenne. Parce que moi j'adore les souverainistes comme Jean-Loup Bonamy qui nous disent en même temps la souveraineté c'est important en tout et qui nous explique qu'il ne faut pas une armée très forte. Et comme aujourd'hui, on ne peut pas le faire à l'échelle française parce qu'on n'en a plus les moyens, on n'est plus la puissance qu'on était du temps du général de Gaulle. Et donc, il faut forcément des alliés et donc il faut à l'échelle européenne. Et là, on aura une vraie souveraineté. On ne dépendra pas des Américains et on pourra faire face à des puissances qui nous sont hostiles, comme aujourd'hui la Russie.
D'autant que, et ça a été démontré par différents rapports parlementaires et par les militaires quand ils s'expriment, le cycle de production aujourd'hui des armes excède de très loin les exigences de délai de réactivité de nos armées. Si demain on avait à intervenir sur un combat de forte intensité ou même de moyenne intensité, l'industrie derrière ne suit pas en termes de cycle de production. Et donc si en plus ce cycle de production, on en prend la moitié pour le filer à droite à gauche à nos ennemis, en réalité à des gens qui combattent nos valeurs, parce qu'encore une fois, moi je suis sur l'idée que la guerre, bien sûr, ça a des guerres stratégiques, mais c'est aussi des guerres de valeurs. Moi je suis désolée, je ne suis pas d'accord pour qu'on vende des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite qui défendent tout sauf nos valeurs.
Oui, mais dans le business, on fait du business, c'est-à-dire qu'on vend là aussi.
Justement, moi je ne fais pas du business avec le Qatar.
On ne sait pas.
Il faut simplement quand même saluer aussi que tu l'as parlé, mais enfin le Rafale, c'est quand même une fierté française, je suis désolé. C'est quand même le génie français, le Rafale. Le canon César, tout le monde dit que, enfin les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste, disent que le canon César, c'est l'un des meilleurs du marché. D'ailleurs, les Ukrainiens en sont très contents. Le radar aussi de Thalès. Enfin, c'est quand même des fleurons. Et à un moment donné, je sais qu'on aime bien en France se autoflageller, mais on peut dire qu'on a quand même des ingénieurs, qu'on a des grandes entreprises comme Dassault, Safran, Thalès, qui est
franco-européen.
Bref, on peut être fier de temps en temps de ce qu'on fait.
Mais Olivier, tu as constaté que précisément parce que c'est les militaires et que c'est un domaine qui est réservé et qui ne peut pas s'exporter, nous n'avons pas les boîtes privées, n'ont pas été faire fabriquer les armes en Chine et dans d'autres pays. Je rappelle quand même que, en général, concernant la recherche, y compris la biorecherche, nous sommes excellents, mais qu'au moment de faire fabriquer, les sociétés les font fabriquer à l'étranger. Et font fabriquer à l'étranger, pas seulement pour des raisons de travail, mais aussi pour des questions de plus de bénéfices. Font fabriquer à l'étranger. Et c'est pas l'État qui décide de se séparer de ses cerveaux et de ses entreprises, c'est les boîtes qui décident de le faire. Et là, comme c'est du domaine totalement réservé, puisque c'est l'armée, on peut pas le faire. Donc effectivement, nous avons des très grands ingénieurs. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quand même que, je répète, jamais, jamais dans l'histoire, le budget de l'armée n'a été aussi fort qu'il est là sur les 5 années à venir. C'est un budget incroyable. Tu as raison de rappeler que c'est idem en Allemagne. C'est la même chose en Allemagne.
Ce qui est historique.
Ce qui est historique, absolument. Et donc, en ce moment, il est en train de se passer quelque chose. On sent bien.
Scholz, c'est pas va-t-en-guerre. C'est des principes de réalité.
On sent bien qu'on a la trouille. On sent bien. Et il y a quelque chose qui change énormément. C'est que tous les pays du bord de la Russie et tous les pays qui ont connu le communisme et qui se sont libérés ont la trouille. Même des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, qui ne sont pas des pays très rigolos et ce n'est pas des pays de gauche, ils ont la trouille. Et ils ont peur et ils ont besoin de nous. Et je rappelle que le jour où Poutine il va dépasser les frontières de l'Ukraine et qu'il va agresser un autre pays qui sera dans l'OTAN, ce jour-là, les accords que nous avons nous obligeront à intervenir.
Oh oui, il y a une obligation de défense solidaire.
Et là, ça va être...
C'est ce qu'a dit Zelensky. C'est ce qu'arrête pas de dire Zelensky. Puisque Zelensky, son discours, c'est de dire, de toute façon, si l'Ukraine tombe, les prochains, c'est vous sur la liste.
Pas nous.
Ça, mais, L'OTAN.
Un pays que nous serons amenés à être obligés de défendre.
Et donc que nous serons obligés par l'engrenage des alliances. Et l'engrenage des alliances, c'est ce qui conduit aux guerres mondiales.
La France, deuxième pays exportateur d'armes au monde. Fierté française, oui ou non. Non pour des questions aussi morales. C'est ce que dit Barbara. Elle fait équipe avec Étienne aujourd'hui. Oui pour Olivier et Jean-Loup. Alors est-ce qu'on peut être fier?
C'est oui. C'est serré, les amis.
Mais c'est un oui 51-49.
Je suis ému, j'ai jamais eu autant. Ça me fait quelque chose. D'habitude, je suis à 3, 4.
C'est grâce à moi.
Ah, c'est Barbara.
Ce qui veut dire que le match n'est pas.
Attendez, vous avez fait un 50-50.
Oui. Oui.
Alors, c'est notre défi. Ouais.
Fabrice, donc. Bonjour, Fabrice.
Alors, bonjour. Alors, oui et non. Et 51-49, ça me rappelle un petit peu Macron. C'est assez rigolé parce que.
Il a fait plus.
Voilà. Donc, moi je dirais oui et non. Alors,
pourquoi oui et non?
Alors, oui et non. Hein, j'ai déjà témoigné sur votre antenne.
Oui, je me souviens.
Ouais, voilà. Donc, ça me fait plaisir d'être de nouveau avec vous. Mais voilà, oui et non, pourquoi? Parce que je vous explique tout simplement mon point de vue. Alors après, attention, mes propos sont pas avérés. Hein. Je suis pas dans les petits papiers des grands chefs des entreprises de l'armement français. Mais vous imaginez bien que, ayant été militaire, ça peut être compliqué de se retrouver avec des mecs en face qui se retrouvent avec des armes qui ont été vendues par des entreprises françaises.
Eh ouais.
Parce que malheureusement, alors après, attention, hein, je n'incrimine absolument pas ces entreprises parce que si elles n'étaient pas là, l'armée française ne serait pas ce qu'elle est, parce que ils sont quand même à la pointe de la technologie et ces entreprises se donnent corps et âme pour que leur militaire français in fine ceux à qui ils vendent, notamment l'Inde, l'Arabie Saoudite. Il y a quand même acheté des Rafales et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que ça fait marcher notre économie. Et ça,
Les Émirats arabes unis, ils ont acheté 80 avions Rafales.
Voilà, donc ça, il faut pas dire le contraire. Après, je reviens sur ce que j'ai entendu tout à l'heure et qui m'a énormément fait sourire. C'est est-ce que ça vous fait pas peur de vendre des armes à des gens qui pourront vous taper sur la gueule dans quelques temps?
Ah ouais.
Voilà. Non, mais concrètement,
je suis pas convaincu que l'Arabie Saoudite va envahir la France prochainement.
Non. Voilà, il faut être pragmatique. Il faut regarder les choses comme elles sont. Effectivement, à l'instant.
Non, en revanche, souvenez-vous, il y avait une polémique parce que l'Arabie Saoudite est en guerre contre le Yémen et on accusait la France de fournir finalement aux Saoudiens les armes qui tuent les civils yéménites.
Bah oui, mais
à l'époque, Jean-Yves Le Drian avait essayé de convaincre que non, mais bon,
c'était pas très convaincant. Ça tuait les civils yéménites. Pourquoi? Parce que les djihadistes houthis se mettaient au milieu des civils yéménites. Tiens, c'est barrant comme stratégie. On connaît pas du tout ça.
Là, on est sur un autre débat. On est sur le fait de pourquoi la France prend position alors qu'elle a peut-être un petit peu plus de choses à s'occuper intérieurement. On est sur un autre débat. On n'est pas là-dessus. Là, moi, je pense que voilà. Je vous appelle concrètement, pour vous dire que effectivement, les militaires français peuvent être amenés à rencontrer.
Les mêmes armes qu'ils ont
sur eux, tiennent dans leurs mains des armes qui ont été vendues par l'industrie française. Je ne pense pas que l'industrie française de l'armement veuille que ça se passe comme ça, mais non. Malheureusement, il y a des circuits détournés et du trafic qui est inhérent.
Donc,
à la
vous êtes partagé.
D'armement.
Vous êtes partagé, Fabrice.
Ben, moi, je vous
d'accord.
dis oui et non. Je vous dis
okay.
oui et non.
Okay.
Parce que je suis effectivement. Content que la France soit un très grand producteur d'armement et que de toute façon, tout le monde le sait, une économie, un pays qui fonctionne bien, c'est un pays qui est en guerre, clairement.
Alors, voilà. Fabrice, attendez, parce que vos propos font agir Jean-Loup Bonamy. Vas-y, Jean-Loup.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fabrice, parce que justement, il a un discours nuancé. C'est-à-dire que on produit des armes, c'est indispensable parce qu'il faut vendre des armes, il faut exporter des armes à l'étranger pour pouvoir financer notre propre recherche et notre propre équipement dans le domaine de la défense. Mais après, en effet, on l'a vu par exemple en Libye ou dans le Sahel, il y a des armes qui ont été fournies à des groupes rebelles par la France ou en Syrie. Et après, ces armes se sont retournées contre la France et même sont arrivées aux mains de Daesh. Mais je pense que plus un problème qu'un problème de vente d'armes, c'est peut-être un problème de discernement. justement géopolitique sur quelle cause on soutient.
Ah bah voilà.
Voilà, c'est ça la question. Alors, je fais juste deux petites précisions pour nos auditeurs. La première, c'est aussi si là, cette année, on est deuxième au classement, c'est à cause de l'effondrement de la Russie, qui est un gros producteur. Or là, la Russie, elle a besoin d'armes pour elle en Ukraine, donc elle ne peut pas en vendre. Elle est sous sanctions internationales, donc il y a moins de pays qui achètent. Et puis aussi, on a vu en Ukraine, surtout au début de la guerre, qu'il pouvait quand même y avoir des défaillances dans le matériel russe. Donc ce n'était pas, en tout cas au début, une super pub pour le matériel russe. C'est aussi pour ça que la France se retrouve aujourd'hui en deuxième place. Il y a quelque chose de très lié à la guerre en Ukraine. En plus, cette guerre, avec également ce qui se passe au Proche-Orient, ça fait peur. Donc le monde entier se réarme. Et deuxièmement, ce que disait Barbara et ce que dit la Fabrice, ça me fait penser à une anecdote dans les années 80, quand il y a eu la guerre des Malouines entre l'Argentine, la dictature argentine, et l'Angleterre, hein, nos alliés britanniques, bah, les Argentins, ils ont commencé en dégommant des bateaux de guerre anglais avec des missiles français. Les fameux missiles Exocet. L'Exocet, c'est un poisson volant, on a donné le nom à nos missiles. Et donc, ils utilisaient des missiles français pour dégommer les bateaux anglais. Et il a fallu que la France, que François Mitterrand, donne les codes des Exocet qui permettait, je crois, de les détecter aux Anglais pour justement pouvoir faire face à cette menace argentine. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des surprises dans les ventes d'armes.
Alors, surtout que déjà Mitterrand, bon, hein, alors j'aurais pas trop confiance en Macron pour qu'il donne des codes à des gens qui ensuite se retourneraient contre nous. Alors là, je peux vous le dire.
Ah
alors
oui
là,
oui, Macron, ça... il ferait du « et en même temps
ah ». Ouais,
Mitterrand n'était pas un pacifiste. Hein, oui. C'est celui qui a dit
ben non,
les
il a
missiles
connu la guerre,
sont à l'Est, les pacifistes sont à l'Ouest. Il s'était aligné d'ailleurs sur la position américaine. C'était Ronald Reagan à l'époque, président des Américains. Et c'était pourtant un président socialiste. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui sont le plus en avant dans la défense de l'Ukraine, ce sont les socialistes et les écologistes. J'entendais ce matin Yannick Jadot sur France Inter qui trouve qu'on n'a pas été assez vite, assez loin. Raphaël Glucksmann, on a fait son cheval de bataille. Et d'ailleurs, il y a une fracture à gauche, c'est assez intéressant, parce que la NUPES, je ne sais pas si elle existe encore, mais enfin là, la NUPES, elle explose
en mille morceaux LFI est
face à l'Ukraine. Mais que LFI...
tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, je suis très proche de LFI et que je suis totalement en opposition.
Mais historiquement, les socialistes en France, depuis 1945, avec la 4e République, sont un parti hyper atlantiste.
Bien sûr.
C'est plutôt les gaullistes qui sont dans une situation de distance et les socialistes qui sont le parti des États-Unis et de la guerre.
Bien sûr. Fabrice, d'avoir été avec nous, mais je parle sous le contrôle de Barbara et Jean-Loup, ce que tu rappelais effectivement qu'il y avait la course à l'armement dans les années 80, mais cette course à l'armement, c'est aussi ce qui a ruiné et qui a provoqué l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire que les Américains, avec les alliés, avec l'OTAN, ont poussé l'Union soviétique,
la guerre
si je
des
me
étoiles.
Souviens bien, avec voilà, la fameuse guerre des étoiles. L'Union soviétique s'est lancée dans la course à l'armement, sauf que ça a ruiné son économie et c'est ce qui a provoqué l'effondrement. Alors peut-être que cette course à l'armement ou cette guerre, si elle s'éternise, est-ce que c'est ce qui provoquera aussi l'effondrement de Vladimir Poutine ?
L'effondrement de la Russie, je n'y crois pas.
En tout cas, l'économie russe n'est pas en très bonne santé, contrairement à
l'économie russe.
La propagande essaie de nous faire croire.
Quand est-ce que l'économie russe a été en bonne santé ?
Non, c'est
jamais.
C'est un petit pays, la Russie, sur le plan
économique. La Russie, c'est un nain économique, de toute façon. Sauf que ce n'est pas un nain civilisationnel et ce n'est pas un nain politique. C'est des gens qui ont une. Et je peux vous dire, Poutine, à mon avis, il a reconstitué l'armée. Et les équipements militaires russes. Écoutez, en tout cas, il y avait beaucoup. Moi, je me rappelle au début de la guerre en Ukraine, de certains commentateurs de plateau qui étaient des grands spécialistes de l'armée, des grands géostratégiques. Oh là là, les amis, en 2 mois, c'est plié. Il y a plus de stock. Ils n'ont plus rien, les Russes. Les Russes, il leur reste plus que des catapultes. On est là 2 ans
Barbara,
plus tard.
Excuse-moi.
Moi j'ai écouté certaines chaînes infos.
Attends,
avec
excuse-moi Barbara.
Attention.
Attends, j'ai entendu l'inverse. Sur ce plateau même, j'ai entendu des spécialistes, dont le général Trinquant, je crois, qui disait
En tout début,
au moment où là, en général, la droite et l'extrême droite disaient que jamais la Russie n'attaquerait l'Ukraine.
Emmanuel Macron n'y croyait pas non plus.
À ce moment-là, j'ai entendu les spécialistes sur ce plateau même qui disaient « Ce sera plié en quelques jours, l'armée russe est la meilleure du monde, elle va écraser l'Ukraine en quelques jours, il n'y aura plus d'Ukraine. » Et en fait, c'est la résistance du peuple ukrainien qui a permis, je rappelle quand même historiquement, parce que j'ai l'impression qu'on refait l'histoire alors que ça ne fait pas 10 ans. C'est la résistance étonnante du peuple ukrainien qui a permis à l'Ukraine
Barbara,
de résister à la Russie.
Barbara, on écoute Abdo au 32-16. Vas-y,
juste
Barbara.
Pour te rappeler simplement, c'est pas la droite et l'extrême droite, c'était tout le monde, à part quelques agences de renseignement américains qui disaient « La Russie n'attaquera jamais ». Donc excuse-moi, parce
en
que
Europe,
toutes tes 5 minutes, ta droite et ton extrême droite, ça va bien 5 minutes. Alors, Macron aussi, hein, il était pour faire des...
Zemmour a dit, clairement, l'Ukraine n'attaquera jamais la Russie.
Zemmour,
la Russie n'a jamais attaqué aucun pays.
Alors,
la Russie n'attaquera
Zemmour,
pas la Crimée.
À part Zemmour,
mais il y a plein de gens qui l'ont dit, mais pas de cette façon-là, effectivement.
Abdo, bonjour.
Bonjour les GG.
Et je salue Fabrice qui était intervenu avec nous. Bonjour Abdo, oui. Fidèle des GG.
Oui, donc, Abdo, il nous appelle souvent.
Oui, et de la RATP. Est-ce que vous êtes fier ou pas?
Évidemment, il faut être fier. C'est un fleuron. On a eu le fleuron agricole qu'on a cassé. On a eu un fleuron industriel qu'on a cassé.
On exporte toujours plus qu'on importe.
Et le seul fleuron qui nous reste, c'est l'armement. Si ce n'est pas nous qui produisons, ça va être un autre pays. Après, j'entends qu'on est deuxième, troisième, quatrième. Mais pour le pays que nous sommes, être dans les trois premiers pays ou les quatre premiers pays, c'est déjà un réel exploit. Et ce qui serait encore mieux, c'est que nos alliés européens achètent nos armes.
Oui, au lieu d'acheter des armes américaines.
Et bien sûr. Et là, après, il y a tout un protectorat. C'est les Américains qui protègent la plupart des pays européens. Mm-hmm. Il faudrait, avant d'envoyer des armes à l'Ukraine, et on revient toujours à l'Ukraine, parce qu'on veut que l'Ukraine soit notre bouclier, alors que nous, on n'arrive pas à avoir une armée européenne. Et là, le problème, il est là, en fait.
C'est
parce qu'on veut... Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr.
Et parce qu'on envoie à droite à gauche des armements, bon, ok, le canon César, quelques avions pour les pays du Nord, quelques chars pour les Allemands, mais c'est pas avec ça qu'on va défendre l'Europe. On aurait une puissance européenne comme on veut nous vendre pour l'agricole, pour l'industrie, et c'est pas vrai en plus, hein, on n'a pas de puissance agricole, hein. Mais on ferait ça pour l'armement. On n'aurait rien demandé aux Américains.
Excusez-moi, Abdo, mais d'abord, je vous rappelle que dans le domaine agricole, on exporte beaucoup plus qu'on importe.
Nous sommes la première
à la fois en Europe et à la fois dans le monde, grâce aux accords de libre-échange, qu'on exporte beaucoup plus, qu'on gagne plus de 10 milliards par ces échanges. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est un petit pays agricole. On est le principal pays agricole.
Premier pays européen.
On est toujours une des plus grandes puissances agricoles. Et donc, c'est absolument faux. Et je rappelle, on nous a fait croire, là, au cours du conflit, qu'on était complètement envahi de produits étrangers. On exporte beaucoup plus et on gagne beaucoup plus. Ne pas que des vins, des fromages, beaucoup de céréales. Et on importe beaucoup d'intrants, toi qui aimes ça, et de soja pour nourrir nos animaux.
Juste une chose, on produit deux fois moins de pommes qu'en 1995, par exemple. Et c'est vrai dans énormément de secteurs. La truffe, le lait, etc. Les cerises, c'est une catastrophe.
Les cerises, il y a eu un souci.
La pomme divisée par deux en termes de production.
Si je peux revenir sur les armes, parce qu'on ne va pas se battre à coups de pommes. Quoique, on pourrait se battre à coups de pommes. Mais Abdo soulève la question de l'armée de défense européenne. De ce point de vue, je suis gaullienne. Si l'armée de défense européenne demain, c'est une armée dirigée et orientée par la France, parce que la France est la seule, surtout que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais je pense que là-dessus, ils nous rejoindraient peut-être avec des accords qui leur permettraient de revenir sur cette question militaire dans l'Europe. OK. Sauf qu'à chaque fois que l'Europe a fait quelque chose, ça a servi qui ? L'Allemagne. Alors, si vous permettez, là aussi, je resterai très gaullienne. Moi, si c'est pour servir l'Allemagne, c'est non. C'est nein.
C'est un peu plus compliqué que ça. Hein.
Merci, Abdo, d'avoir été avec nous.
Et le problème aussi, c'est que, justement, si on veut faire une armée européenne, une défense européenne indépendante des États-Unis, le problème, c'est qu'il faut faire cette armée avec les autres pays européens et qu'il y a plein de pays européens qui sont d'accord pour être alignés sur les États-Unis.
Moi, je pense avec le conflit ukrainien, que notamment les pays de l'Est, limitrophes.
Et puis ça va dépendre de la position.
Si un Donald Trump, effectivement, réélu en novembre,
ça va dépendre de leur position.
Ils seront bien contents quand même de trouver un soutien français.
Alors, on va regarder le résultat final. La France, puisqu'on était à 51-49, la France, deuxième pays exportateur d'armes au monde. Est-ce qu'on peut être fier ? Oui ou non ? Allez, on y va. Résultat final, ça n'a pas bougé.
On a gagné,
ça s'est inversé, on a perdu.
51-49.
Ah, je suis ému, ça m'est jamais arrivé.
C'est ta première victoire.
Ah, c'est ma première victoire.
C'est ma première victoire. Vous allez nous faire pleurer, Étienne.
C'est vrai,
c'est sur les armes que tu as gagné.
C'est sur les armes.
Tu devrais réfléchir à ça.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.